Chapitre 14. En commençant ce chapitre, nous revenons à des détails historiques et nous arrivons au dernier moment de la vie de notre Seigneur. Les versets 1 à 11 nous donnent une introduction très remarquable à ces dernières scènes. Au verset 1 et 2, une haine pleine de ruses atteint son apogée. Au verset 10 et 11 est brièvement rapportée la manifestation suprême d'une trahison impitoyable. Et les versets qui séparent les deux paragraphes racontent l'histoire d'un amour plein de dévouement que témoigne une femme ordinaire. La beauté de ce récit est rehaussée par le fait qu'il se trouve entre ce qui nous est dit d'une telle haine et d'une telle trahison. La haine des principaux sacrificateurs et des scribes n'avait d'égal que leur ruse. Cependant, ils n'étaient que des instruments dans les mains de Satan. Ils disent, non pas pendant la fête, mais ce sera pendant la fête. Et encore, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple, mais il y aura un tumulte parmi le peuple. Seulement, ce sera en leur faveur et contre le Christ de Dieu. Ils connaissaient mal le pouvoir du diable auquel ils s'étaient vendus. Cette femme de Béthanie, Marie, comme nous le savons d'après Jean 12, ne comprend peut-être pas pleinement elle-même la portée et la valeur de ce qu'elle fait. Elle est probablement poussée par une intuition spirituelle, se rendant compte de la haine meurtrière qui entoure celui qu'elle aime. Elle a apporté son parfum de grand prix et le répand sur Jésus. Son geste est mal interprété par quelques-uns. Matthieu nous dit que ce sont des disciples, et Jean ajoute que le traître Judas était à l'origine de cette critique. Il pense à l'argent et aux pauvres, mais surtout à l'argent. Le Seigneur prend le parti de cette femme, et cela suffit. Il accepte ce qu'elle a fait et l'estime selon la compréhension qu'il a de ce que cela signifiait, et non selon son intelligence à elle, même si cette femme était, comme nous le pensons, la plus intelligente des disciples. En cela, nous pouvons voir l'annonce, pleine de la douceur de la grâce, avec laquelle il passera en revue à son tribunal les actes de ses saints. Son verdict est: ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Et c'est un très grand éloge. De plus, il annonce qu'il sera parlé de ce qu'elle a fait partout où sera prêché l'Évangile. Son nom est connu et ce qu'elle a fait est rappelé par des millions de personnes aujourd'hui, 19 siècles plus tard, et tout à son honneur, tout comme aussi Judas est connu, mais à sa honte, et son nom est devenu synonyme de bassesse et de perfidie. Ces versets d'introduction nous montrent alors que, comme s'approche le moment décisif, chacun apparaît sous son vrai jour. La haine et la perfidie des adversaires deviennent plus noires. L'amour vrai est avivé, bien que personne ne l'exprime comme Marie de Béthanie. Au verset 12, nous passons à la préparation du dernier souper, au cours duquel le Seigneur donne un témoignage bien plus émouvant à la force de son amour pour les siens. Il y a quelques marques de leur amour pour lui, mais ce n'est rien en comparaison de son amour pour eux. Le Seigneur Jésus n'avait pas de demeure personnelle, mais il savait bien comment se procurer tout ce qui était nécessaire au service de Dieu. Le propriétaire de la grande chambre garnie était sans aucun doute quelqu'un qui le connaissait et le révérait. Les disciples savaient que leur maître pouvait pourvoir à tout. Ils ne tentent rien de leur propre initiative. Ils regardent simplement à lui pour avoir ses instructions et agissent en conséquence. Ainsi, celui qui n'a pas un lieu où reposer sa tête ne manque pas du logement qui convient pour la dernière réunion avec les siens. Pendant bien des siècles, on avait célébré la Pâque, et ceux qui la mangeaient savaient qu'elle commémorait la délivrance d'Israël de l'Égypte. Il y avait peu d'Israélites, si même il y en avait, qui se rendaient compte qu'elle annonçait la mort du Messie. Maintenant, pour la dernière fois, elle doit être mangée avant de trouver son accomplissement. Ce qui occupait l'esprit des disciples, nous ne le savons pas. Mais de toute évidence, l'esprit du Seigneur est tourné vers sa mort, et c'est vers elle qu'ils tournent leurs pensées, en annonçant que celui qui le livrera est parmi eux, et qu'il était sous la malédiction. Puis, il institue son propre souper. La concision caractérise tout le récit de Marc, mais elle n'est nulle part plus marquée que dans la relation qu'il fait de l'institution de la scène. Cependant, tous les éléments s'y trouvent. le pain et ce dont il est le signe, la coupe, ce qu'elle représente et ce à quoi on peut l'appliquer, ce qui fait qu'elle est désignée par Paul comme étant la coupe de bénédiction que nous bénissons. Pour le Seigneur lui-même, le fruit de la vigne et ce qu'il symbolise, la joie terrestre, est entièrement passé. Plus jamais il n'en boira jusqu'à ce que, dans le royaume de Dieu, il en boive d'une manière tout à fait différente. Toutes les espérances et toutes les joies terrestres qui reposaient sur le fondement ancien sont pour lui fermées. La leçon que nous avons à retenir est bien en harmonie avec ce que nous avons là. Dieu peut, dans ses dons providentiels pleins de grâce, nous permettre de jouir sur la terre de beaucoup de choses qui sont heureuses et agréables. Cependant, toutes nos vraies joies de chrétiens ne sont pas d'ordre terrestre, mais céleste. De la chambre haute, où il a institué son souper, le Seigneur mène ses disciples à Gethsémané. Une hymne, ou psaume, est chantée, les psaumes 115 à 118 étant, dit-on, la portion des Écritures qui était généralement chantée alors. Pour les disciples, c'était sans doute simplement ce qui se faisait d'habitude. Mais qu'est-ce que cela a dû être pour le Seigneur? Chanter, alors qu'il s'avançait pour accomplir ce qu'était la Pâque, en type, en devenant le sacrifice. Et le psaume 118, dans ses derniers versets, parle de lier avec des cordes le sacrifice aux cornes de l'autel. Il allait vers la souffrance et la mort, lié par les cordes de son amour, et les disciples vers les défaillances, la défaite, la dispersion. Il les avertit de ce qui les attend, les renvoyant à la prophétie de Zacharie, qui avait annoncé que le berger de l'Éternel serait frappé et le troupeau dispersé. Mais le prophète avait ajouté « Et je tournerai ma main sur les petits ». C'est ce qui correspond au verset 28 de notre chapitre. Ceux qui étaient ses brebis sur le plan national seraient dispersés, mais les petits, que Zacharie appelle ailleurs les pauvres du troupeau, seraient rassemblés encore sur une base nouvelle dès lors que le berger serait ressuscité. C'est donc en Galilée, et non pas à Jérusalem, qu'il doit les rencontrer. Pierre, sûr de lui, affirme que lui ne bronchera pas, même si cela arrivait aux autres, et il dit cela après la déclaration très explicite du Seigneur qui prévoit sa chute. Les autres ne veulent pas rester en arrière et se lancent dans les mêmes affirmations que Pierre. Cela s'explique par cette rivalité profane qu'il y avait entre eux pour savoir qui serait le plus grand. Marc fait ressortir cela avec une netteté particulière, comme on peut le voir si on compare les versets 29 à 31 avec ce qui est dit au verset 33 à 34 du chapitre 9 et au verset 35 à 37 et 41 du chapitre 10. Certainement, Pierre sent que maintenant lui est fournie l'occasion de démontrer, une fois pour toutes, qu'il dépasse tous les autres d'une tête. Et ceux-ci sont bien décidés à ne pas lui laisser prendre l'avantage. Ils doivent se maintenir à sa hauteur. La chute de Pierre semble bien soudaine, mais tout cela nous montre que les racines secrètes de cette chute remontaient loin dans le passé. Les paroles téméraires de Pierre devaient rapidement être mises à l'épreuve, et tout d'abord à Gethsémané, où ils arrivent aussitôt après. À lui et à ses compagnons, il n'est demandé que de veiller une heure. Ils sont incapables de le faire, mais ce n'est qu'à Pierre, qui s'est tellement vanté, que le Seigneur adresse ses paroles de reproche pleines de douceur, employant son nom d'autrefois, Simon. C'est ce qui convient, car à ce moment-là, Pierre n'est pas conséquent avec son nouveau nom, mais il montre plutôt les caractères de la vieille nature qui est encore en lui. Leur maître est saisi d'effroi, fort angoissé, et saisi de tristesse jusqu'à la mort. Et pourtant les disciples dorment, et non seulement une fois, mais à trois reprises. Sur cet arrière-plan sombre de leur défaillance, brille cependant, avec d'autant plus d'éclat, la perfection de leur maître. La réalité de son humanité nous est présentée de façon très frappante au verset 33 et 34, ainsi que sa perfection. Étant Dieu, il savait, dans une plénitude infinie, tout ce que cela comporterait que de mourir en portant le péché. Il était parfaitement homme, et tout ce qui fait la sensibilité humaine était intact en lui. Notre sensibilité à nous a été émoussée par le péché, mais en lui, il n'y avait pas de péché. Il ressentait donc tout dans une mesure infinie, et c'est ardemment qu'il désirait que cette heure passât loin de lui. Et cependant encore, ayant pris cette place de serviteur, il est parfait dans sa consécration à la volonté de Dieu, et ainsi, bien qu'il désire que la coupe passe loin de lui, il ajoute « Toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. » Nous pouvons peut-être tout résumer en disant qu'étant parfaitement Dieu, il avait la faculté infinie de savoir et de ressentir tout ce que signifiait pour lui cette heure de la mort qui approchait. Étant parfaitement homme, il entrait pleinement dans la tristesse de cette heure-là et ne pouvait faire autrement que de prier que cette coupe passe loin de lui. Parfait serviteur, il se présentait lui-même pour le sacrifice, dans une entière soumission de cœur à la volonté de son Père. Trois fois, notre Seigneur converse ainsi avec son Père, puis il revient pour affronter le traître et sa troupe d'hommes pécheurs. Nous pouvons nous souvenir que trois fois, il a été tenté par Satan au désert, au début de sa carrière, et il semble certain, bien que cela ne soit pas mentionné ici, que le pouvoir de Satan était aussi présent à Gethsémané. Car en sortant de la chambre haute, il avait dit « Le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. » Jean 14, verset 30. Cela aide aussi à expliquer l'extraordinaire assoupissement des disciples. La puissance des ténèbres était trop grande pour eux, comme elle l'est toujours pour nous, sauf quand nous sommes activement soutenus par la puissance divine. N'oublions pas que non seulement la puissance de Satan incite quelquefois les croyants à commettre de mauvaises actions, mais qu'aussi, quelquefois, elle se contente de les endormir. En disant à Pierre « L'esprit est prompt », le Seigneur reconnaît évidemment qu'il y avait chez ses disciples ce qu'il pouvait apprécier et estimer. Cependant, la chair est faible, et Satan, à ce moment même, était terriblement actif, si bien que rien, si ce n'est veiller et prier, n'aurait répondu à la situation. Prenons cela aussi pour nous. Alors que s'approche la fin des temps, l'activité de Satan ne peut que croître et non diminuer, et il nous faut être éveillés, avec toutes nos facultés spirituelles en alerte, et être remplis d'un esprit de prière dans la dépendance de Dieu. Les versets 42 à 52 nous occupent de l'arrestation de Jésus par la populace envoyée par les principaux sacrificateurs sous la direction de Judas. Il ne s'agit pas, bien sûr, de soldats romains, mais de gens au service du temple et des classes dirigeantes des Juifs. Quel récit ! La foule et sa violence, qu'elle montre par des épées et des bâtons. Judas, avec la traîtrise la plus abjecte, qui livre le Seigneur par un baiser. Pierre, qui se lance brusquement dans une activité charnelle. Tous les disciples qui abandonnent le Seigneur et s'enfuient. Un jeune homme inconnu qui tente de suivre, mais qui finit par prendre la fuite, la honte s'ajoutant à sa panique. Violence, trahison, fausse activité qui s'égare, peur et honte. Nous le redisons, quel récit! Voilà ce que nous sommes quand nous sommes confrontés au pouvoir des ténèbres sans être en communion avec Dieu. Quant à Pierre, c'est la troisième étape sur son chemin qui descend. Il s'est d'abord laissé prendre dans cette rivalité qui cause tant de tort pour avoir la première place parmi les disciples et qui a abouti à la confiance en soi et à l'affirmation de sa propre importance. Puis c'est son manque de vigilance et de prière qui l'a amené à dormir, alors qu'il aurait dû être éveillé. Troisièmement, c'est sa colère et sa violence charnelle, suivie de sa fuite honteuse. La quatrième étape, qui mettra un comble à tout cela, nous la trouvons à la fin de ce chapitre. Mais pour le Seigneur Jésus, tout est sérénité, dans une soumission parfaite à la volonté de Dieu, comme cela a été exprimé dans les Écritures prophétiques. Sa lumière ne cesse pas de briller, sans jamais vaciller. Fidèle parmi les infidèles, seule lumière dans les ténèbres. Les versets 53 à 65 résument pour nous le procès qui se déroule devant les autorités religieuses juives. Tous sont assemblés pour juger le Seigneur, et ainsi la chose se fait en ce qui les concerne, au vu et au su de tous. Cela montre, à l'évidence, quelles passions ont été soulevées. Un sanhédrin au complet, et ceci en pleine nuit. Un feu brûle dans la cour et nous voyons Pierre qui se glisse au milieu des ennemis de son Seigneur pour se réchauffer un peu. Il n'est pas question de jugement impartial. Les juges du Seigneur, avec cynisme, cherchent des témoins qui leur permettront de prononcer contre lui la sentence de mort. Cependant, la puissance de Dieu est à l'œuvre derrière la scène. Toute tentative pour imputer à Jésus les accusations forgées contre lui est vaine. Les efforts n'ont pas manqué. Un exemple nous est donné au verset 58 et nous reconnaissons une déformation de ce qu'il a déclaré et qui nous est rapporté en Jean 2, verset 19. Une accusation après l'autre s'effondre, car ses parjures sombrent dans la confusion et se contredisent. C'est comme si Dieu enveloppait leur esprit, d'ordinaire si subtil, d'un brouillard qui les plonge dans le désarroi. En désespoir de cause, le souverain sacrificateur se lève pour l'interroger, mais à sa première question, Jésus ne répond rien. Évidemment, pour la simple raison qu'il n'y a rien à répondre. Lorsqu'on le somme de dire s'il est le Christ, le Fils de Dieu, il répond immédiatement et dit « Je le suis ». La question et la réponse sont toutes deux bien précises. Là se tient le Christ, le Fils de Dieu, selon qu'il le reconnaît lui-même nettement. Et non seulement cela, mais il affirme qu'en tant que Fils de l'homme, il aura tout pouvoir en sa main et qu'il reviendra du ciel en gloire. En conséquence de cette confession, Jésus est condamné à mort. Le prophète Michée avait annoncé que le juge d'Israël devait être soumis au jugement des hommes. C'est ce qui arrive. Cependant, il est tout à fait remarquable que, lorsque le grand juge est effectivement appelé à être jugé par des hommes, toute tentative pour le condamner sur témoignage humain échoue. Tous ces hommes qui témoignent contre lui tombent dans une confusion totale. On le condamne en se fondant sur le témoignage qu'il s'est rendu à lui-même, et ce faisant, ils transgressent eux-mêmes la loi. Il était écrit, en Lévitique 21, verset 10, « Et le grand sacrificateur d'entre ses frères ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. » Et de cela, le souverain sacrificateur ne tient pas compte, tellement il est troublé en présence de sa victime et emporté par la colère et la haine. Cette tempête de haine s'abat sur le Seigneur dès qu'ils ont découvert un prétexte pour le condamner. Mais avec leur soufflet et leur crachat, ils ne font, sans s'en rendre compte, qu'accomplir les Écritures. Cette parodie de procès devant le Sanhédrin se termine par des scènes de désordre, exactement comme la confusion avait marqué leur premier débat. Confusion mise d'autant plus en évidence par sa présence pleine de sérénité au milieu d'eux. Les seules paroles que le Seigneur prononce dans le récit de Marc sont rapportées au verset 62. Les versets 66 à 72 nous font voir dans une parenthèse jusqu'où aboutit enfin la défaillance de Pierre. Nous avons déjà vu les premières étapes qui l'ont amené là. Le voilà maintenant en train de se chauffer, en compagnie de ceux qui servent les adversaires de son Seigneur, et, à trois reprises, il le renie. Satan est derrière la scène, comme Luc 22, verset 31 nous le montre, et c'est ce qui explique la manière habile dont ses différents serviteurs, par leurs remarques, l'empêchent de se dérober. La première servante affirme qu'il a été avec Jésus. La seconde, qu'il est de ces gens-là, voulant évidemment dire par là qu'il est l'un de ses disciples. C'est ce qu'affirme à nouveau le troisième serviteur, qui prétend en avoir la preuve dans sa manière de s'exprimer, et il semble qu'il s'agisse d'un parent de ce Malchus dont Pierre avait coupé l'oreille, comme le rapporte Jean. À mesure que Pierre voit le filet d'accusation avec ses mailles fines se resserrer autour de lui, ses dénégations deviennent plus violentes. D'abord, il fait celui qui ne comprend pas. Ensuite, il oppose un démenti formel, et enfin, il déclare qu'il ne connaît même pas le Seigneur, et il se met à faire des imprécations et à jurer. Les autres n'étaient pas disposés à accepter qu'il déclare ne pas être disciple de Jésus, mais ils ont dû être convaincus, par les tristes œuvres qu'il accomplissait, que Jésus est vraiment pour lui un inconnu. Méditons cet avertissement que nous donne la conduite de Pierre, et veillons à avoir la foi qui s'exprime par des œuvres qui la reflètent. Mais si Satan est à l'œuvre en ce qui concerne Pierre, le Seigneur l'est aussi, comme nous le montre Luc 22, verset 32. Il a prié pour lui, et le Seigneur fait que, dans l'esprit enfiévré de Pierre, reviennent les paroles mêmes de l'avertissement qui a été donné. Lorsqu'il s'en souvient, sa conscience est réveillée. Il est amené à verser des larmes, et dans ce travail qui s'opère dans son cœur et sa conscience, se trouve le point de départ de sa restauration. Quand il est permis qu'un saint fasse une chute semblable, et que son péché devienne public et fasse scandale, nous pouvons être sûrs que ce péché a des racines cachées qui remontent dans le passé. Nous pouvons bien être sûrs que le chemin de retour vers une guérison complète ne se fait pas en un instant.